Non, en fait, les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ce qu'on appelle le cognitif sont très conjoncturelles, comme toujours. C'est-à-dire qu'au moment où je faisais mon parcours de recherche académique comme jeune psychiatre qui se destinait à une carrière universitaire, cette époque a coïncidé avec le développement de ce qu'on appelait les sciences et les neurosciences cognitives en France. C'est-à-dire en fait la fin des années 80, le début des années 90. Et alors que j'étais engagé dans une formation psychopathologique plutôt classique, et notamment psychanalytique, est arrivée cette vague à la fois de recherche, de financement, d'intérêt pour les sciences cognitives. Par ailleurs, un certain nombre de mes maîtres de l'époque étaient eux-mêmes très engagés dans la promotion des sciences cognitives, en l'occurrence principalement deux, Marc Jeanneret, avec qui je travaillais dans le registre neurosciences, et qui a été un des plus grands chercheurs en neurosciences français de ces dernières années, avec d'autres, mais il était un des grands. Et puis Daniel Videlecher, qui à l'époque était encore chef de service à la Pitié, directeur de l'unité INSERM 302, professeur de psychiatrie d'adultes. Et les deux étaient activement engagés dans le développement des sciences cognitives et des neurosciences cognitives. Et je me suis trouvé, voilà, je suis monté dans ce train qui était sur le départ, et j'ai fait un bout de chemin avec. Et alors, précisons de quoi il s'agit, hein. Le mot cognitif est très ambigu parce que il avait déjà un sens, le mot cognition et cognitif avait déjà un sens dans la psychologie avant l'apparition des sciences cognitives, ce qui a été l'objet de beaucoup d'ambiguïté. Et ce sens, globalement, c'était le fonctionnement intellectuel, la cognition, le fonctionnement intellectuel, l'intelligence, les apprentissages, etc. Donc, pour un certain nombre de collègues psychiatres, psychologues ou psychanalystes, ou qui étaient formés dans les années 60-70, il y avait un malentendu assez radical parce que le cognitif dont il s'agissait avec les sciences cognitives n'était pas du tout celui-ci. Donc il y a eu un certain flottement et le mot a été mal interprété et pour beaucoup c'était le retour d'une psychologie intellectualiste, anti-affect, anti-émotion, voire même au scandale, anti-pulsion. Alors qu'en fait, dans l'acception moderne, le terme de cognition signifie juste le fonctionnement mental. Et on peut dire aussi bien le fonctionnement psychique ou mental, c'est rien d'autre. Et les sciences cognitives, en fait, c'était simplement le retour, la renaissance d'une psychologie objective, d'une psychologie à base expérimentale, ou pas seulement, parce qu'il y avait aussi une psychologie, des références en psychologie cognitive très fortes, par exemple à la philosophie de l'esprit. Et ce malentendu a beaucoup perturbé la réception des sciences cognitives en France, parce qu'on se référait à la vieille psychologie cognitive, qui était elle-même l'héritière de la psychologie expérimentale d'avant-guerre. En fait, les sciences cognitives, c'est un mouvement qui s'est constitué aux États-Unis après-guerre, notamment au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, qui regroupait des acteurs, des professionnels de champs extrêmement divers, donc les pionniers de l'intelligence artificielle, des psychologues, des linguistes. Chomsky a été un des fondateurs, un des cofondateurs, des philosophes, ce qu'on appelait la philosophie de l'esprit, la philosophie analytique, pas encore de psychiatres à ma connaissance. Tous ces gens-là, en fait, voulaient reconstruire une psychologie sur la base du cadavre du behaviorisme. C'est-à-dire que le behaviorisme et le comportementalisme, comme on l'appelle en France, avaient régné en maître pendant des décennies dans les académies, dans les universités. Il avait interdit le mentalisme, il avait interdit la psychologie. On considérait que la psychologie n'était pas ni possible ni sérieuse, qu'on pouvait étudier que le comportement. Et le behaviorisme est finalement arrivé en fin de cycle, il a disparu comme science, hein, comme, même s'il reste inspirateur d'un certain nombre de pratiques, là je parle de l'identité académique. Et il y a eu à ce moment-là une rébellion contre cet interdit de faire de la psychologie, et donc un retour, une renaissance de ce qu'on appelle le mentalisme, c'est-à-dire l'intérêt pour les processus de l'esprit, les processus mentaux, la vie mentale. Et les sciences cognitives, c'est un courant pluridisciplinaire de disciplines qui concourent toutes ensemble à essayer de comprendre, modéliser, décrire, éventuellement même reproduire les processus de la vie mentale. La vie mentale, je crois que c'est un terme qui était cher à Daniel Riedlacher et qu'il empruntait à Ribot, si je me souviens bien. Donc, en fait, pour les psychiatres comme Daniel Riedlacher, les sciences cognitives, c'était l'opportunité de relancer la psychopathologie, une psychopathologie qui ne soit pas exclusivement référée à la psychanalyse, mais qui soit une psychopathologie des processus, des mécanismes, et qui plus est, une psychopathologie moniste, c'est-à-dire où on pense les processus mentaux dans leur rapport avec les processus biologiques et avec le cerveau. L'ambiguïté, c'est que les sciences cognitives sont rapidement devenues des neurosciences cognitives, et que ces neurosciences cognitives ont une tendance assez naturelle, finalement, à se réduire à de la biologie et à laisser finalement une part congrue à une psychologie objective et à redevenir une forme de biologie, on dirait une biologie informée de la psychologie. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour faire une vraie psychologie objective. Alors on poursuit, pour moi, avec les sciences cognitives, ex-psychologie cognitive, et avec les neurosciences cognitives, finalement, ce très vieux projet de formaliser les processus mentaux d'une manière, non seulement dans le langage de la subjectivité, mais d'une manière objective, dans un langage qui décrive des processus, des mécanismes, et qui ne soit pas le langage ni de la biologie, des neurones, des synapses et des médiateurs, qui ne soit pas à proprement parler le langage du cerveau, des aires corticales et des connexions, et qui ne soit pas non plus le langage de la psychologie naïve, je veux, je crois que, j'ai l'intention de, mon intention cause mes actions, je ressens des émotions, je pense que, et qui ne soit pas non plus le langage de la psychologie clinique et de la psychanalyse, qui, dans le fond, n'est peut-être pas si éloigné que ça de la psychologie naïve et de la psychologie subjective. Donc, quelque part, entre le langage du sujet et le langage du cerveau, est-ce qu'il y a une place pour une psychologie des processus qui ait le même degré d'efficacité explicative et descriptive que, par exemple, les mathématiques pour la physique? C'est un peu ça l'idéal, hein, trouver cette même adéquation. On a besoin des mathématiques pour construire un pont et pour la physique. Est-ce qu'on arriverait à trouver un langage qui soit à la psychologie ce que les mathématiques est à la physique? Alors c'est ça la question. Et dans le fond, c'est un vieux rêve parce que, un, c'était le rêve de Freud lui-même avec l'esquisse d'une psychologie scientifique et la métapsychologie freudienne, dont on peut dire que d'une certaine manière, elle n'a pas atteint cet objectif-là. Elle en a atteint d'autres, mais pour moi, elle n'a pas atteint celui-ci. Je crois qu'elle est avant tout la théorie d'une pratique, beaucoup plus que la théorie du fonctionnement psychique. Ça, c'est une autre question dont on pourrait discuter. C'était probablement aussi le rêve de Lacan, avec ses formalisations, tantôt linguistiques, tantôt mathématiques, de trouver ce langage qui ne soit ni biologique, ni psychologique au sens ordinaire, qui a une valeur explicative. Je pense que ça rejoint l'ambition de ce philosophe dont le nom m'échappe à l'instant, avec de Politzer, avec la psychologie concrète. Politzer a consacré à Freud un livre où il reconnaît l'intérêt de la psychanalyse, où il dit qu'elle échoue à traiter de la réalité concrète des opérations mentales, des processus mentaux, que dans le fond, elle n'est qu'un langage de la subjectivité. Voilà, c'est, je pense que ce qui animait ceux que j'ai suivis dans cette aventure, c'était cette idée. Alors, pour Daniel Riedlacher, c'était l'idée d'une métapsychologie qu'aujourd'hui il qualifierait de concrète, c'est-à-dire une métapsychologie qui parle vraiment des faits et pas seulement du regard que nous portons sur les faits, pour peut-être le dire comme ça, dans la situation psychanalytique et sur la vie mentale. Pour Marc Jeanneret, et là, leur route se croisait, c'était le projet d'une physiologie mentale. Marc Jeanneret poursuivait, j'ai oublié de le citer, mais Leibniz, et l'idée d'arriver à concevoir l'esprit comme le produit d'une machine. Donc Marc avait écrit un premier livre qu'il avait fait émerger dans ce champ, Le cerveau-machine, qui était autre chose que l'homme neuronal de Changeux, parce que l'homme neuronal, précisément, c'était réduire la psychologie à la biologie. Marc Gendreau était un physiologiste de l'esprit. Il pensait qu'on pouvait faire une psychologie qui soit comme une physiologie pour l'esprit, et que ça ne devait pas être une biologie, et que ça ne devait pas être non plus le langage de la subjectivité. Donc, voilà comment les sciences cognitives, au moment où je les ai croisées, rassemblaient finalement des esprits d'origine, de pensée, d'écoles différentes, mais qui avaient en commun ce rêve de formaliser la vie mentale comme une autre fonction du vivant, comme Claude Bernard. Hein, l'idée était vraiment bernardienne de voir l'esprit avec des processus d'homéostasie comparables à ceux de la glycémie. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Pour la psychiatrie, beaucoup de recherches, mais qui ont finalement eu peu d'impact sur la pratique. Et dans le fond, le sentiment que, entre sens et mécanisme, on n'arrive toujours pas à résoudre cette espèce d'écart et à trouver une formalisation qui inclut et qui intègre, qui rende compte autant des processus biologiques, des contraintes biologiques, des contraintes du fonctionnement neuronal, et des logiques de sens qui caractérisent l'action humaine, ce qu'on pourrait appeler l'intentionnalité au sens le plus large. Il reste là quelque chose qui résiste à l'élucidation, mais disons que je crois qu'on peut continuer à penser dans le cadre neurocognitif, en tout cas cette démarche, ce mouvement vers plus qu'une compréhension des comportements, des conduites et de l'esprit humain, mais une tentative d'explication au sens causal. L'avenir nous dira si c'est un rêve, une utopie ou une réalité.